Bonjour frères et sœurs. Nous continuons notre étude ce matin dans le livre des Actes. Lisons tout de suite le passage dans Actes où nous sommes rendus. Avec le pasteur Dominique, on a vu que Paul, accompagné de Silas et Timothée, était à Corinthe où il a évangélisé beaucoup. Il a été menacé aussi par les Juifs, mais ça n'a pas fonctionné. Il a pu continuer librement à évangéliser. D'ailleurs, Dieu lui avait promis apparaissant en songe, il l'a rassuré en lui disant qu'il allait prendre soin de lui et qu'il avait un peuple nombreux dans la ville de Corinthe. Même c'était encourageant de savoir qu'il ne travaillait pas pour rien, que les résultats étaient même assurés de la part de Dieu. Donc c'est après son séjour à Corinthe qu'on lit le passage suivant dans Actes 18, verset 18. Actes 18, 18, jusqu'au verset 22. Donc, les actes des apôtres, qu'on pourrait aussi appeler les actes du Saint-Esprit, tellement il est le personnage central. Chapitre 18, verset 18. Paul demeura là encore assez longtemps. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Il entra dans la synagogue et il s'entretint avec les Juifs, qui lui demandèrent de rester encore quelque temps. Mais il n'y consentit pas, et il prit congé d'eux, en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Mais je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » D'Éphèse, il fit voile pour débarquer à Césarée. Il monta à saluer l'Église, puis il descendit à Antioche. Donc, c'est un court passage, c'est tout ce que nous allons étudier ce matin. Un court passage, mais pourtant, qui couvre un voyage quand même assez long. Où Paul part du port de Sancré, en fait, qui est le port de Corinthe, pour retourner jusqu'à la ville, l'Église, qui l'a envoyé comme missionnaire à Antioche, et c'est un voyage de près de 2500 kilomètres en bateau et à pied. Donc, c'est étalé sur plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, je ne sais pas, ça dépend des vents, ça dépend de sa vitesse pour se déplacer. Mais en tout cas, c'était quand même un assez long voyage, et c'est étonnant de voir combien court est ce passage. Hein. Luc ne semble pas vouloir attirer notre attention sur un événement ou un autre, mais plus sur les circonstances ou l'attitude, le comportement de Paul à travers ce voyage. Il s'agit de la fin de son deuxième voyage missionnaire, donc son retour à la maison après le deuxième voyage missionnaire. Et ça fait à peu près un an et demi qu'il est à Corinthe, sans compter le temps qu'il a passé dans les autres villes. Donc, ça fait au moins 2 ans qu'il est parti de l'Église mère, l'Église qu'il a envoyée. Et il part du port de Sancré avec ses nouveaux amis qu'il s'est fait à Corinthe, Priscille et Aquilas, qui sont des compagnons d'œuvre. On ne sait pas s'ils se sont convertis par la prédication de Paul ou s'ils étaient déjà chrétiens, mais ils sont devenus de précieux collaborateurs. Et il s'est lié d'amitié très vite avec eux parce qu'ils étaient fabricants de tentes comme lui, mais aussi parce qu'ils avaient un zèle pour l'Évangile. Il les décrit même dans ses lettres comme étant des compagnons d'œuvre qui ont été prêts même à mettre leur vie en risque pour son bien, pour sa protection. Ils étaient de vaillants soldats dans l'armée de Dieu. En prenant le bateau, il fait un court arrêt à Éphèse. C'est le seul arrêt qu'il fait avant de traverser la Méditerranée. C'est la première fois qu'il se rend à Éphèse lors de ses voyages missionnaires. Donc, ça demeure une ville non atteinte. On ne sait pas s'ils avaient déjà entendu parler de la voie, de ce nouvel enseignement, mais... Et comme à son habitude, Paul se rend directement à la synagogue pour s'entretenir avec les Juifs, pour leur annoncer que les promesses faites dans l'Ancien Testament sur la venue du Messie, du Christ, se sont réalisées, que le Sauveur que tous attendent, c'est Jésus. Jésus qui est mort pour les péchés de son peuple, pour sauver les enfants de Dieu, et qui est ressuscité et qui règne. Donc, il invite les Juifs d'Éphèse à se convertir à Jésus-Christ, à devenir des disciples et à accéder au salut offert par Dieu, par l'Éternel. Et, ce n'est pas souvent le cas, mais à Éphèse, on lui fait un bon accueil. Donc, les Juifs entendent ça d'une bonne oreille, ils voient ça d'un bon œil, et ils lui demandent même de rester quelque temps de plus. Mais Paul refuse. Il décide de partir tout de suite parce que son plan, son objectif, c'est de se rendre à Jérusalem sans tarder pour arriver à temps pour la prochaine fête qui sera célébrée. L'une des grandes fêtes officielles, je ne sais pas si c'est Pâques ou la Pentecôte, mais c'est un événement important où beaucoup de Juifs se rassemblent, où l'Église de Jérusalem sera présente, les apôtres seront là. C'est comme le point de ralliement, Paul ne veut pas manquer cela. Mais il laisse à Éphèse Priscille et Aquilas qui vont pouvoir continuer l'œuvre d'évangélisation, qui va porter fruit d'ailleurs, parce que Paul, quand il reviendra plus tard à Éphèse, il va y trouver une Église. Et donc, ils pourront continuer son œuvre. On va voir ce passage la semaine prochaine. Donc, Paul embarque à nouveau sur le bateau. Il traverse la mer Méditerranée. Et il arrive à Césarée, sur la côte là, de la Syrie. Et de là, il est dit qu'il monte saluer l'Église. Ce n'est pas spécifié de quelle Église il s'agit. Mais à l'époque, lorsqu'on disait qu'on montait, c'était vers Jérusalem. On montait à Jérusalem et on descendait dans les autres villes. Puis lorsqu'il s'agit de l'Église sans autre indication, ben on parle à ce moment-là de l'Église de Jérusalem. Il y a quelques autres exemples de cela. Donc, on doit comprendre l'expression comme signifiant que Paul, après s'être arrêté à Césarée, il n'a pas perdu son temps, il est monté à Jérusalem saluer l'Église, qui est finalement la première Église. C'est là où l'Église est née, et ça demeure le point de ralliement des apôtres. Ça a été une courte visite, et après sa visite, il descend à Antioche, qui se trouve au nord, qui est son église envoyante, finalement. Et si Paul fait comme lors du retour du premier voyage, où lui et Barnabas ont fait un rapport de leur mission, mais si Paul fait la même chose, c'est qu'il rapporte tout ce que Dieu a pu accomplir à travers lui et à travers ses compagnons, ils ont dû vraiment être émerveillés d'entendre ces nouvelles-là. Encore une fois, l'Évangile avait fait une percée, avait été encore plus loin pour se rendre jusqu'en Macédoine, en Europe, et atteindre même des grandes villes comme Athènes et Corinthe. Donc, c'était impressionnant. Ils ont dû se réjouir avec lui. Donc, c'est un court passage où on voit la fin du voyage missionnaire, mais ce que j'aimerais souligner avec vous, c'est deux aspects de l'attitude, le comportement de Paul. Premièrement, on le voit qu'il prend l'initiative, il prend des décisions, des résolutions, il a des objectifs, même on le voit faire un vœu. Mais en même temps, ou même paradoxalement, il sait que c'est Dieu qui contrôle les événements. Dieu demeure souverain au contrôle des événements, et Paul, on le voit comme, par plusieurs indices, on le voit soumis à Dieu. Il continue de servir son Dieu, même s'il est plein de zèle et plein d'initiative. Il demeure un serviteur de Dieu. Il se décrit même dans ses lettres comme étant l'esclave de Jésus. Donc, premièrement, on le voit prendre des résolutions. Et ce qui attire notre attention ici, c'est le vœu qu'il a fait. Et on n'a pas beaucoup de détails sur le vœu, mais on sait qu'il le fait avant de s'embarquer au port de Corinthe, à Sancré, avant de s'embarquer en bateau, il se fait raser la tête. Là, il y a beaucoup de questions qui sont surgies par rapport à cela. Premièrement, de quelle sorte de vœu qu'il s'agit? Pourquoi Paul a fait cela? C'est quoi son intention? Et quand il s'est fait raser la tête, est-ce que c'était la fin de son vœu, l'accomplissement, ou c'était le début, c'était son engagement? Bon, j'ai lu pas mal de commentateurs là, sur le sujet, puis c'est très divisé les opinions. Il y en a même qui pensent que c'est pas Paul, que c'est Aquilas qui avait fait ce vœu-là. Mais quand même, tout porte à croire que c'est Paul, là. C'est lui le personnage principal dans ce passage, mais il semblerait, là, ce qui est le plus probable, c'est que c'est le vœu de Nazirea que Paul a fait, puisqu'on en entendra parler encore dans quelques chapitres plus loin. Et pour cela, je vous invite à tourner avec moi dans le livre de Nombre, dans l'Ancien Testament. Nombre, chapitre 6. Tourner ou pitonner, ça dépend si vous avez une Bible papier. Nombre, donc c'est pas mal au début de la Bible, après Genèse, Exode. Nombre, chapitre 6, où il est question d'une Nazirée. Donc, lisons ensemble nombre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme, donc vraiment ça s'adresse aux deux sexes, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, on se mettra à part, en faisant vœu de Naziréat pour se consacrer à l'Éternel. Il s'abstiendra de vin et de liqueur forte. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une liqueur forte. Il ne boira d'aucun breuvage tiré des raisins. Il ne mangera ni raisins frais, ni raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son vœu de Naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, et il sera saint, ou sanctifié, mis à part. Il laissera pousser librement ses cheveux de sa tête. Pendant tout le temps qu'il a consacré à l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte, d'un cadavre. Il ne se rendra pas impur, même pour son père ou sa mère ou son frère ou sa sœur, à leur mort, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son Naziréat, il sera saint pour l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne impure, il se rasera la tête le jour de sa purification. Il se la rasera le septième jour. Puis le huitième jour, il apportera au sacrificateur deux tourterelles, deux jeunes pigeons à l'entrée de la tente de la rencontre. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime pour le péché et l'autre comme holocauste. Il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel le temps de son Naziréat et offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Et les jours précédents ne compteront pas, parce que son Naziréat a été souillé. Voici la loi relative au Naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son Naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente de la rencontre, ou à l'époque de Jésus, c'est au temple, et présentera son oblation à l'Éternel, un agneau d'un an, et sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'un an, sans défaut pour le péché, et un bélier sans défaut pour le sacrifice de communion, une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile, et de galettes sans levain arrosées d'huile, avec leur offrande et leur libation. Le sacrificateur présentera ses offrandes devant l'Éternel, et il offrira la victime pour le péché et l'Holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice de communion à l'Éternel, en plus de la corbeille de pain sans levain. Le sacrificateur présentera l'offrande et la libation. Et le Naziréen rasera, à l'entrée de la tente de la rencontre, sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui brûle sous le sacrifice de communion. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain, il les déposera entre les mains du Naziréen et après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur devant l'Éternel fera le geste de les dédier et c'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur en plus de la poitrine qu'on dédie et de la cuisse qu'on prélève. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi relative au Naziréen qui fait un vœu, telle est son oblation à l'Éternel pour son Naziréat, outre que ce que lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi du Naziréat. Wow, c'est tout un protocole, hein? Il fallait savoir dans quoi on s'embarquait lorsqu'on voulait faire un vœu de Naziréat. Mais une chose qui est étonnante, même si c'est un commandement, un ordre, une prescription de l'Éternel, c'est un geste qui est totalement volontaire. C'est imposé à personne, bon, sauf pour quelques exceptions où les gens ont été naziréens pendant toute leur vie. On pense à Samson. Beaucoup plus tard, il y a eu Jean-Baptiste qui a été comme mis à part dès le sein de sa mère comme naziréen toute sa vie. Mais à part ces quelques exceptions-là, c'était un geste volontaire pris par la personne pour un temps défini. Donc, on s'engageait à l'avance pour un temps déterminé, par exemple un mois, deux mois, dans le but de se consacrer à Dieu. Même ici, on voit que Dieu ne fait aucune promesse de bénédiction ou de guérison ou de protection ou même de bénédiction financière ou de prospérité ou peu importe. Il n'y a aucune promesse de Dieu attachée à cela. C'est vraiment du point de vue de l'homme ou de la femme qui veut se consacrer au service de l'Éternel. Et on ne sait pas trop en quoi consiste nécessairement ce service-là, mais entre autres, pour être capable de vaquer à ses occupations, il y a certaines privations que ça comporte. Donc, il ne boit pas de vin, donc il ne pourra pas aller faire le party avec ses amis. Donc, des privations qui sont liées à cela. Et à la fin, on voit aussi un rituel où des sacrifices sont offerts, non seulement pour le péché, mais en holocauste, donc pour adorer Dieu, et aussi sacrifice de communion, donc qui signifie vraiment un rapprochement entre l'adorateur et Dieu, le Créateur. Et à la fin aussi, il se rasait la tête et il prenait ses cheveux et les mettait au feu. Au temps de Jésus, cette pratique était encore répandue. Donc, les historiens nous rapportent que c'était assez répandu parmi les Juifs qu'un homme ou une femme voulait s'engager dans un vœu de Naziréat vraiment pour se consacrer à Dieu. Et c'était la consigne de se laisser pousser les cheveux pendant la période. Donc, si vous avez remarqué à la caméra ce matin que peut-être les cheveux de Ronald ou les miens commencent à être un peu trop longs, ne nous jugez pas trop vite, on est peut-être en train de faire un vœu, qui sait. Mais la question demeure, quand Paul s'est coupé les cheveux à Saint-Christ, est-ce que c'était à la fin de son vœu, l'accomplissement, ou au début? Et c'est difficile à répondre. Beaucoup de commentateurs croient que c'est à la fin, si on se fie à la description dans Nombre 6. Mais j'ai réfléchi longuement, là, puis sans pouvoir dire que je suis absolument certain, je préfère dire que c'était au début. Donc, au port de Corinthe, avant de s'embarquer, son voyage de retour, Paul a fait un vœu avec Dieu, même si on ne sait pas c'était quoi son engagement, et il s'est fait couper les cheveux. D'ailleurs, on voit dans Nombre 6, vous avez remarqué que si pendant la période déterminée, il arrive un moment où la personne est souillée parce qu'elle était en contact avec un cadavre ou une autre circonstance, bien, elle doit se purifier et ça fait partie du rituel de purification de se raser la tête pour recommencer parce que les cheveux poussent librement, mais c'est comme si le Naziréat recommence et pour cela, la tête est rasée. Donc, je crois qu'on peut aussi supposer que si quelqu'un, pour débuter son Naziréat, sent le besoin de se purifier, bien, qu'il va se raser la tête en début aussi. Il va se raser la tête au début et à la fin. Donc, finalement, les cheveux qui seront jetés au feu, la longueur des cheveux sera l'équivalent du temps consacré à Dieu. En tout cas, même si ce n'est pas dit, je pense que c'est sous-entendu. Et si on considère la situation de Paul qui sort d'une ville païenne, dépravée, l'une des pires de l'époque dans l'Empire romain, où il y a de la prostitution, de l'immoralité sexuelle, de la débauche, toutes sortes d'idolâtries, et que Paul a été en contact avec tout cela, peut-être qu'il a senti le besoin de se purifier avant de retourner en Terre Sainte et en passant à travers dans son voyage, en passant par différentes synagogues et rencontrer les Juifs. En tout cas, ça fait peut-être du sens, même si on ne le sait pas. Un autre indice, c'est que si c'était le début de son vœu et que l'accomplissement devait se faire au Temple à Jérusalem, tel que prescrit, ça explique pourquoi aussi Paul ne voulait pas trop perdre son temps à Éphèse, ni même à Césarée, qu'il voulait aller directement à Jérusalem pour la prochaine fête, pour pouvoir finalement accomplir, terminer son vœu. Et si c'est bien le vœu de Naziréat dont il est question, certains commentateurs en doutent, ils disent que c'est peut-être un autre vœu, mais si c'est bien le vœu de Naziréat, et Paul connaissait très bien la loi de l'Ancien Testament, un expert parmi les pharisiens, on a lu tantôt qu'il devait s'abstenir de boire tout fruit de la vigne. Donc, si Paul avait fait ce vœu-là alors qu'il était à Corinthe et que c'est seulement en partant qu'il terminait son vœu, ça veut dire que pendant la période de son Nazaréat, à Corinthe, parmi les chrétiens de l'Église de Corinthe, il ne pouvait pas participer à la table du Seigneur, ce qui me semble étrange. En tout cas, on pourrait en débattre longtemps, là, mais j'ai plutôt l'impression que c'est le début de son vœu, qu'il profite du temps où il est seul. De toute façon, il sait qu'il va laisser Priscille et Aquilas à Éphèse. Il sera seul un temps où est-ce qu'il pourra se consacrer à Dieu, peut-être passer beaucoup de temps à l'étude de la parole, à la prière, à l'évangélisation même, sur le bateau et dans les différentes villes, entre autres à Éphèse. Une question se pose, et elle a été soulevée par des critiques aussi de la Bible. Est-ce que Paul, en faisant ce vœu, en voulant honorer l'Ancien Testament, a comme tout à coup quitté la grâce pour retourner sous la loi? Est-ce qu'il était en train de tomber dans le piège des légalistes en faisant cela? Mais je crois que non, parce qu'ici, ce n'était pas une question de salut. Paul n'était pas en train de vouloir pratiquer des commandements de l'Ancien Testament pour espérer avoir une place au ciel. Paul était convaincu que sa place était auprès du Seigneur Jésus au ciel. S'il le faisait, c'était une question de consécration à Dieu, qui est toujours bonne, qui est encore bonne aujourd'hui en 2021. Et même si Paul n'enseignait pas aux païens qui devenaient chrétiens de pratiquer la loi de l'Ancien Testament, il n'y avait pas renoncé pour lui-même nécessairement. Et on voit Paul qui continue de pratiquer des fêtes. Il demeurait un juif, il était attaché à sa culture juive, et c'était, pour beaucoup de commandements, c'était une bonne chose. Donc, même si les apôtres n'ont pas prescrit aux chrétiens d'origine païenne d'observer les coutumes de l'Ancien Testament, elles étaient encore observées parmi les Juifs. C'est pour ça même qu'ils demandent aux païens convertis de s'abstenir de manger le sang, les viandes sacrifiées aux idoles, pour ne pas choquer les Juifs qui sont auprès d'eux, qui doivent être unis dans une même église, parce que les Juifs, eux, vont avoir tendance à continuer à pratiquer, à suivre les règles de l'Ancien Testament. Et Paul faisait attention de ne pas scandaliser aucun des deux groupes, ni les Grecs, ni les Juifs. Et on lit dans 1 Corinthiens 9, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. » Donc, lorsque Paul est arrivé à Éphèse avec la tête rasée, tout de suite, les Juifs de la synagogue ont su que Paul était zélé pour le Seigneur. Donc, avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi. Et afin de gagner ceux qui sont sans loi, j'ai été comme sans loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sans loi de Dieu, mais sous la loi de Christ. Mais je fais cela afin de gagner ceux qui sont sans loi. Donc, Paul se faisait un point d'honneur de ne pas scandaliser ni les Juifs, ni les Grecs, pour pouvoir les approcher, sans hypocrisie. Bien sûr, tout était sincère, mais dans le but de les gagner pour l'Évangile, de pouvoir leur présenter l'Évangile sans obstacle. Maintenant, si on considère la question des vœux, qu'est-ce qu'il y en est pour nous en 2021? Est-ce que c'est une bonne chose de faire un vœu? Il y en a beaucoup de gens, même des incroyants, qui en début d'année ont l'habitude de prendre des résolutions. Ou même si ce n'est pas une habitude, cette année est particulièrement étrange. Hein? C'est la première fois là, depuis très, très longtemps que les gens sont confinés à la maison. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, même dans l'histoire, où on passe le jour de l'an, on débute l'année confinés à la maison. Ça nous oblige à réfléchir. Là. Puis on entend parler de gens qui ont pris des résolutions, croyants comme non-croyants. Est-ce que c'est une bonne chose pour un chrétien de prendre une résolution, un engagement, et même un engagement solennel, un vœu? Bien, je crois que oui, certainement, si c'est la volonté de Dieu, si c'est conforme à sa volonté, d'où l'importance de lire la Bible. On pourrait, par erreur, prendre un engagement qui déplaît à Dieu. Puis on se trouve dans une impasse, là. Briser notre parole ou continuer à faire quelque chose qui déplaît à Dieu. C'est pas évident. On se souvient de l'histoire de Jephthé dans l'Ancien Testament qui avait promis à Dieu qu'il allait sacrifier le premier être vivant qui allait sortir de sa maison pour remercier Dieu de la victoire sur ses ennemis. Et malheureusement, c'est sa fille qui est sortie de la maison. Là, il était pris une impasse. D'ailleurs, la Bible nous met en garde sur l'importance d'accomplir nos engagements. On lit dans Deutéronome 23, « Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. En t'abstenant de faire un vœu, tu ne commets pas de péché. Mais tu observeras et tu exécuteras ce qui sera sorti de tes lèvres conformément au vœu que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, que ta bouche aura prononcé. » Il n'est même pas question ici de signer un contrat avec du sang ou de faire une cérémonie, là. Simplement de s'engager devant Dieu. Un vœu, Dieu nous tient à notre parole. On lit dans Proverbe 20, et là c'est Salomon, un homme sage qui a écrit Proverbe 20, verset 25, « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. De ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Et il dit aussi dans Ecclésiaste 5, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. » En d'autres mots, Dieu te voit là. « Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, le rêve vient de la foule des soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. » Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu devrait s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Car dans la foule des rêves, il y a des vanités. De même, quand il y a beaucoup de paroles, et c'est pourquoi, crains Dieu. Et c'est encore vrai aujourd'hui, même si maintenant la relation avec Dieu, elle est plus intime, on peut appeler notre Dieu Papa, notre Père Céleste. Mais faire un vœu et ne pas l'accomplir, ça demeure quelque chose qui irrite Dieu. Et la consigne de craindre Dieu demeure. On peut distinguer deux types de vœux. Même dans la Bible, certains faisaient un vœu comme une promesse d'action de grâce, une promesse de reconnaissance à Dieu si Dieu exauçait une prière ou les sortait d'un pétrin. Par exemple, encore aujourd'hui, on pourrait faire ce genre de vœu. Je ne sais pas si ça vous est déjà passé par l'esprit de faire ce genre de vœu. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Où on prie Dieu, puis on, sans vouloir lui forcer la main, parce qu'on ne doit pas tenter Dieu, là, on demeure soumis à sa volonté, que sa volonté soit faite, mais on peut d'avance s'engager à le remercier s'il exauce notre prière. Comme on pourrait dire, si tu réponds favorablement à ma demande, je promets de te glorifier auprès de tous mes voisins. Je vais aller en parler à chacun de mes voisins pour leur dire le bien que tu m'as fait. Où je vais t'honorer auprès de mes collègues de travail, même s'ils ne sont pas croyants, même s'ils risquent de rire de moi, je vais t'honorer. Ou même, si vous êtes sur Facebook, peut-être vous allez dire, je vais déclarer officiellement là, sur Facebook là, ce que tu as fait pour moi, je vais te glorifier. Ou un autre vœu pourrait être du genre, si tu acceptes de me guérir de cette maladie, je m'engage dorénavant à consacrer par exemple, une journée par semaine à aider les frères et les sœurs qui vivent des difficultés. Ou, si tu permets que j'ai cet emploi-là, j'ai passé une entrevue, Seigneur, touche le cœur de l'employeur pour qu'il m'engage, si tu permets que j'ai cet emploi, je promets de donner 10 % de tous mes revenus. Vous avez peut-être déjà fait ce vœu-là. Parfois, on peut faire des vœux inconsidérés. J'ai déjà entendu quelqu'un qui promettait de donner beaucoup d'argent si Dieu le faisait gagner à la loterie. À l'Auto-Québec, bon, Dieu ne s'est jamais engagé à nous faire gagner à un jeu de hasard. Mais bon, vous comprenez le genre d'engagement qu'on peut faire. Mais au niveau des revenus, dans un sens, pour plusieurs d'entre nous, peut-être la plupart, nous donnons en offrande à Dieu, en donnant à l'Église, en respectant une forme d'engagement, ce que nous avons résolu dans le cœur. Et même la Bible encourage ça, de s'engager devant Dieu, pour un montant même, ou un pourcentage, pour une période de temps et qu'on dit à Dieu, je vais le respecter, quoi qu'il va arriver. Je te fais confiance. Donc, plusieurs d'entre nous, finalement, nous avons fait un vœu avec nos offrandes. Comme on lit dans 2 Corinthiens 9, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Pas que chacun donne selon ce qu'il a dans ses poches, le jour même ou selon l'impulsion du moment. Ça se peut que le Saint-Esprit nous mette à cœur de donner, mais ici, le point qui est souligné par Paul, c'est comme il l'a résolu, comme il l'a décidé dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, librement, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais retenir le montant qu'on avait prévu donner en offrande parce qu'on veut s'acheter une nouvelle console de jeux vidéo ou on veut se payer une activité puis qu'il nous manque des fonds, je ne suis pas sûr que Dieu apprécie. Donc, une première forme de vœu que l'on peut faire, c'est un vœu en reconnaissance. Mais ici, le type de vœu que l'on voit dans l'exemple du Naziréa, et c'est probablement ce que Paul a fait, c'est un vœu de consécration. Donc, ce n'est pas en réponse, en remerciement ou en action de grâce. Bien, ça peut être suite à... Ça peut être motivé par une reconnaissance, mais l'intention, ici, c'est de se consacrer à Dieu. Se consacrer pour vaquer, par exemple, à l'un des devoirs chrétiens. Normalement, ça peut être pour une durée limitée, une durée déterminée, où on s'engage devant Dieu à se consacrer plus intensivement ou à combler un manque qu'on avait au niveau des devoirs chrétiens. Par exemple, on pourrait s'engager à lire toute la Bible en un an, ou même en 6 mois. Donc, finalement, de s'inonder de la parole de Dieu de manière plus intensive qu'on l'a fait. Et ça, c'est sûr que Dieu l'apprécie. C'est sûr que ça va selon sa volonté, puisqu'il nous demande de la lire. Donc, ce genre d'engagement-là est bon. On peut faire le vœu devant Dieu aussi de prier à chaque jour, une demi-heure, par exemple. Pour les prochains 6 mois, à chaque jour, je prie une demi-heure. Ou même, de manière plus intensive, pendant le mois prochain, je prie 2 heures par jour pour des requêtes spécifiques et je m'engage devant Dieu à le faire. Ou je m'engage à vaquer plus intensivement à l'évangélisation, comme un soir par semaine, pendant un an. Ou je fais le vœu devant Dieu d'essayer de raviver la flamme de la communion fraternelle. Je manque peut-être d'amour, d'intérêt pour mes frères et sœurs. Je m'engage à entrer en contact avec tous les frères et sœurs que je connais dans l'Église, à tour de rôle. Je vais passer la liste des membres de tous ceux que je connais pour les saluer. Ben là, il faut que ça se fasse à distance ces temps-ci, au téléphone ou par Zoom, et prier avec eux. C'est sûr qu'on devrait déjà être en train de faire toutes ces tâches-là. Mais parfois, un vœu, c'est une manière de se reconsacrer, de retrouver le premier amour qu'on avait perdu. Dans certains cas, les vœux sont permanents. Est-ce qu'il vous vient un exemple d'un vœu qui est permanent? Bien, pour tous les couples mariés, c'est les vœux qu'on fait le jour du mariage, que Dieu considère comme étant permanent. C'est un vœu qui appelle une alliance. Donc, vraiment, on change de statut pour le restant de nos jours, ou jusqu'à ce que l'un des deux décède. Donc, ce genre de vœux-là, Dieu considère qu'ils nous lient jusqu'à la fin. Le Nouveau Testament ne donne pas beaucoup d'exemples, mais on en a au moins un dans 1 Timothée 5, où il est question d'un autre vœu, c'est celui que les veuves faisaient. Donc, une fois que leur mari était décédé, qu'elles se trouvaient sans grande possession, et à l'époque, les veuves n'avaient presque pas de pouvoir au niveau financier ou même au niveau des autorités pour prendre soin d'elles-mêmes, et lorsqu'elles étaient arrivées à un certain âge, même qu'elles ne pouvaient plus nécessairement trouver un emploi dans le monde séculier, elles pouvaient s'inscrire sur une liste, du moins à l'église où se trouve Timothée, une liste officielle des veuves, et Paul dit qu'une veuve pour être inscrite sur la liste n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été la femme d'un seul mari, qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, recherché toute bonne œuvre, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque leur désir les détache du Christ, elles veulent se marier et elles se rendent coupables en ce qu'elles ont annulé ainsi leur premier engagement. Bon, c'est un peu mystérieux comment ça fonctionnait, mais comment je comprends cela, c'est que les veuves pouvaient devenir officiellement veuves comme recrutées par l'Église pour servir, j'imagine, servir à temps plein les frères et sœurs dans l'Église. C'est pour ça qu'elles avaient des qualifications qui étaient requises. Elles devaient avoir fait leur preuve avant qu'elles avaient un cœur dévoué et qu'elles étaient aptes à servir les frères et sœurs, capables d'exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, c'est-à-dire prendre soin d'eux et secourir les malheureux. Elles devaient être assez âgées aussi pour que leur engagement soit définitif. Et puisqu'elles se consacraient au service des saints, l'Église les faisait vivre, dans un sens. L'Église pourvoyait à leurs besoins, pour subvenir à leurs besoins, pour la nourriture, le logement, les vêtements. Donc, elles étaient comme enrôlées dans le staff de l'Église, on peut dire. Et c'est pour ça que Paul avertit, il ne faut pas que vous preniez des veuves qui sont jeunes. Une veuve de 25 ans, les chances sont élevées qu'elle veuille un jour, elle rencontre le prince charmant, elle va vouloir se marier. Elle va renoncer à son vœu, qui est dans un sens un vœu de célibat, un engagement pour le restant de ses jours à servir l'Église. Donc, c'est un exemple. Et une autre caractéristique des vœux de consécration, c'est qu'on se prive de quelque chose. Ça va de soi. Pour pouvoir vaquer à une occupation de manière intensive, on doit délaisser autre chose. Donc, c'est lié. Lorsqu'on se consacre à Dieu, c'est qu'on délaisse des choses. Ça peut être délaisser des péchés, mais ça peut être délaisser aussi des choses qui peuvent être bonnes. Mais on fait le choix d'être délaissé, comme les veuves font le choix de ne pas se remarier pour être célibataire et servir Dieu à temps plein. Comme un pasteur, lorsque je suis devenu pasteur, j'ai renoncé à être ingénieur. J'ai même retiré mon nom du tableau de l'ordre des ingénieurs. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vont devoir faire... qui seront appelés à faire ce genre d'engagement solennel. Mais tous, nous avons, de manière ou d'une autre, à nous consacrer au Seigneur, et ça implique certaines privations. Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle vous pourriez, vous penser, en janvier 2021, renoncer pour vous consacrer plus à Dieu? Renoncer pour un temps, peut-être vous engager pour... un mois, deux mois, ou pour l'année. C'est sûr que lorsqu'on met quelque chose qui est irraisonnable, des prétentions trop élevées, comme dit Paul, les chances sont fortes qu'on ne va pas les accomplir. Donc, quelque chose qui est raisonnable, qui va être bon pour nous consacrer davantage au Seigneur. Est-ce que, par exemple, un bon indice, est-ce que vous avez un bon culte personnel, quotidien? Vous prenez le temps d'étudier sa parole, de prier, non seulement de lire, mais de voir comment Dieu vous parle, de répondre par la prière, par des engagements. Est-ce que vous avez du temps pour vos frères et sœurs, du temps pour servir l'Église? Est-ce que vous avez du temps pour évangéliser? Mais est-ce que vous avez un culte? Est-ce que vous êtes en relation vraiment bouillante avec le Seigneur? Est-ce que vous aimez Dieu? Sinon, qu'est-ce qui vous en empêche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que vous n'êtes pas capable d'avoir votre temps avec le Seigneur le matin ou le soir? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez délaisser, ou comme on dit parfois, sacrifier? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes prêt à vous engager, et pourquoi ne pas le faire maintenant même? Pour une période, de dire à Dieu, je renonce à cette chose-là, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que je veux me rapprocher de toi. Partir sur le bon pied, raviver la flamme qui était en train de s'éteindre dangereusement. Il faut l'avouer qu'en ce temps de pandémie, la menace est élevée. Puisqu'on n'a pas beaucoup de choses à faire, parfois on peut tomber dans l'oisivité et on ne va pas nécessairement utiliser le temps à notre disposition pour se rapprocher de Dieu, mais pour le remplir par d'autres choses, pour nous distraire, et ça peut malheureusement occuper trop de place. Concernant les vœux en général, vous avez peut-être remarqué que le Nouveau Testament en parle peu, mais c'est parce que quand est venu Jésus, on a vu à quoi servaient tous ces vœux dans l'Ancien Testament, qui étaient comme une image de tout ce que Jésus a accompli. Et Jésus a enrichi le concept, il a approfondi le concept des vœux à sa pleine maturité. Alors, on peut souligner deux différences avec le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Premièrement, on avait pris l'habitude, à l'époque de Jésus parmi les Juifs, à penser que c'est seulement nos paroles solennelles qu'on déclare selon Dieu, ou lorsqu'on jure sur Dieu ou sur le temple, sur les Écritures, sur les sacrifices, que là, on doit tenir notre engagement. Mais si on s'est engagé dans une autre circonstance qui est moins solennelle, on n'est pas obligé de tenir. Ou c'est excusable, ou Dieu va pardonner, ou les hommes vont prendre pour acquis qu'on ne tiendra pas nécessairement parole, sauf lorsqu'on va jurer devant Dieu. Mais c'est là où, lorsqu'on devient chrétien, croyant, on est mis à part dans un sens 24 heures sur 24. On est toujours considéré saint, contrairement aux Naziréens qui c'était pendant la période de son Naziréat. Maintenant, puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes toujours saints. Et Dieu tient toujours notre parole comme étant solennelle. C'est une différence que Jésus a enseignée, et Jacques le rappelle dans Jacques 5. « Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » C'est-à-dire que si vous dites « oui, je vais faire telle chose » ou « oui, je vais prier pour toi » et que tu ne pries pas, tu te rends coupable. Ou tu dis « non, non, je n'irai pas » et finalement tu y vas, tu te rends coupable. Finalement, Dieu nous dit qu'on n'a pas besoin de jurer. Peu importe, tout ce que l'on dit devrait être vrai et on devrait être fidèle à tous nos engagements en tout temps. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, parce que vous avez mis votre confiance en Jésus qui vous a sauvé, qui vous a régénéré, a fait de vous son frère, son ami, mais vous êtes tenu maintenant à ce que toutes vos paroles soient vraies et à ce que vous soyez fidèles à vos engagements. On devrait être connus, les chrétiens, comme des hommes et des femmes de parole. C'est pour ça que ça a moins sa raison d'être, un peu. La question des vœux pour s'engager, puisque en tout temps, nos paroles nous engagent. Deuxièmement, en tant que disciples de Jésus, bien finalement, pour toute notre vie, tout le reste de nos jours sur cette terre, nous devrions être consacrés à Dieu. Même si c'est bon de se reconsacrer au Seigneur là, pour un temps, de manière intensive ou pour un événement, on devrait considérer comme toute notre vie comme étant consacrée au Seigneur. Dans Hébreux 6, on lit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. » Bon, Dieu le voit cela. Mais l'auteur d'Hébreux explique pourquoi il continue d'exhorter les chrétiens pour dire « Ben, écoute donc, j'en ai pas assez fait. Pourquoi tu m'exhortes comme cela? » Mais il dit « Nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance. » Finalement, d'être bouillant pour le Seigneur, là, c'est l'objectif pour tous les jours de notre vie jusqu'à la fin. Selon le rôle différent que Dieu accorde à chacun dans l'Église. Comme on lit dans Romains 12, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » C'est comme un vœu que l'on fait à Dieu, on se reconsacre. « Qui est saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au monde présent. » Donc, on voit ce que ça implique de se sacrifier. C'est de se priver de certaines choses. Se priver de ce que le monde considère comme des essentiels. Mais ce n'est pas nécessairement essentiel. Donc, ne pas se conformer à l'idéologie du monde pour se consacrer à Dieu. « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables. Donc, finalement, de faire un vœu insensé ou de vouloir se consacrer à Dieu d'une manière que Dieu ne nous a pas appelé. Il faut que ce soit raisonnable, d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Donc, chacun selon le rôle qu'il a donné. Et nous sommes tous des membres dans un corps, et nous nous complétons. Mais c'est sûr que Dieu appelle chacun à être zélé, à avoir de l'empressement jusqu'à la fin. Donc, c'est un des aspects de l'attitude de Paul ici qu'on voit qu'il prend des décisions, il fait des vœux pour l'Éternel, il est zélé. L'autre aspect, et ce ne sera pas long, on termine là-dessus, c'est une petite phrase qu'il dit lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens, qui lui demande de rester à Éphèse quelque temps encore, mais Paul dit « Non, il faut que je me rende à Jérusalem. » Mais « Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Donc, même si Paul a un caractère fort, on le voit comment il prend des initiatives, des décisions, il dirige les troupes, il demeure soumis. Et l'expression « si Dieu le veut » ou « si le Seigneur le veut », il la répète quand même assez souvent dans ses épîtres même, lorsqu'il écrit aux Romains ou à d'autres. Il demeure soumis à la volonté de Dieu. D'ailleurs, présentement, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu par ses voyages missionnaires. Il sait que Dieu le conduit. On l'a vu, le Saint-Esprit a fermé la porte à certains endroits, il l'a ouvert à d'autres endroits. Et il est vraiment dirigé par le Saint-Esprit. Il demeure soumis à la volonté de Dieu. Donc, il y a des endroits où Paul aurait souhaité aller, qui finalement, il n'est pas allé. Il a mentionné qu'il va mentionner aux Romains qu'il souhaite aller en Espagne. On ne sait pas si finalement il s'est rendu, mais si à la fin du livre des Actes, où on rapporte qu'il est mis en prison, si c'est son dernier emprisonnement avant sa mort, ça veut dire qu'il n'est pas allé en Espagne comme il le souhaitait. Mais Paul l'accepte. Il accepte finalement que c'est Dieu qui est au contrôle de sa vie. Malgré toutes les résolutions qu'il pourrait prendre, il demeure soumis à Dieu qui est au contrôle des événements, qui est souverain. Donc, si Dieu le veut, c'est beaucoup plus profond que juste dire « je ne connais pas l'avenir, seul Dieu connaît l'avenir ». Non, c'est que si Dieu le veut, cette expression-là, selon la Bible, c'est qu'on est prêt à se soumettre à la volonté de Dieu et à l'accepter de bon gré. Comme Salomon le soulignait d'ailleurs dans Proverbe 19, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. » Donc, un serviteur de Dieu qui lit la Bible à tous les jours le voit bien, que c'est Dieu qui contrôle. Dieu est maître et ça nous aide vraiment à passer à travers toutes les circonstances. C'est lui, c'est aussi dire si Dieu le veut, c'est aussi une manière de rendre gloire à Dieu. Donc, si Dieu le veut, je pourrai accomplir telle tâche. Si Dieu le permet, nous ferons cela, nous vivrons cela. Donc, lorsque nous allons le faire, finalement, nous allons reconnaître que ça vient de Dieu. Si Dieu le veut, j'aurai un salaire et je pourrai acheter telle chose. Si Dieu le veut, j'aurai la santé suffisante pour faire telle ou telle action. C'est un reproche que Jacques fait aux chrétiens de l'Église à qui il écrit dans Jacques 4. « Vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. » c'est des bonnes choses, c'est comme un plan d'affaires, un plan de business. Mais vous qui ne savez même pas ce que votre vie sera demain, vous êtes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais c'est quoi le problème fondamental dans leur cœur? Pourquoi ils ne disent pas si le Seigneur le veut? Ils disent maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Mais toute gloriole de ce genre est mauvaise. Finalement, on est invité, même si on prend des résolutions, on fait des vœux, on s'engage, on prend l'initiative, on est invité à se soumettre à Dieu et à lui rendre gloire pour tout ce qu'on pourrait accomplir. C'est Dieu qui le permet. Et plus on est conscient de cela, plus on se le rappelle, plus on va rendre gloire à Dieu. Une manière très concrète de se soumettre à la volonté de Dieu, même en début d'année, particulièrement en début d'année, c'est de prier avant de prendre une décision. Peut-être que vous êtes sur le point de prendre une décision en ce qui concerne le travail ou les fréquentations, peu importe, ou vos études ou le lieu d'habitation. Mais au lieu de juste dire si Dieu le veut, une manière de vous soumettre vraiment, que si Dieu le veut prenne vraiment un sens, c'est de prendre un temps pour prier, de le consulter. Et d'accepter que peut-être que Dieu va dire non. Puis de ne pas chercher à défoncer une porte que Dieu va avoir fermée, mais d'accepter sa volonté sans amertume et de suivre le plan de Dieu en étant sincèrement ouvert à changer de plan si Dieu nous le montre. Donc finalement, qu'en 2021, ce soit une année où nous allons progresser dans notre consécration au Seigneur. Et je vous invite à prier, non seulement pour vous-même, mais pour toute l'Église, qu'on ne perde pas des brebis du troupeau, et que le jour où nous allons pouvoir nous réunir à nouveau tous ensemble, que la salle soit remplie et qu'on n'ait pas perdu de vue des brebis qui se soient enfuies ou perdues, Vraiment que Dieu nous garde chaud pour lui. Et je pense qu'on va tous avoir besoin d'un petit engagement, d'une reconsécration pour se lever tôt le dimanche matin et revenir s'asseoir sur les chaises. On a pris peut-être l'habitude de regarder le culte en pyjama avec un café dans la main. Ça va être un défi de se lever pour venir à l'Église, mais prions pour cela qu'on se reconsacre, que Dieu nous donne le zèle en restant soumis à sa volonté, toujours en lui rendant gloire pour tout ce qu'il permet, tout ce qu'il accomplit à travers l'Église de Rosemont même.